Les rencontres de Pétrarque. Hervé Gardette.
Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue aux rencontres de Pétrarque 2020, rencontre qui, vous le savez, se déroule cette année en studio à Paris, crise du coronavirus oblige. Pour cette édition, nous avons choisi de nous intéresser à la question vaste de la mondialisation. Sommes-nous enfin prêts pour la mondialisation et, accessoirement, quelle est notre place dans le monde? C'est la question que nous déclinons jusqu'à vendredi. Hier, Régis Debray et Philippe Descola répondaient à la question « Dans quel monde vivons-nous ? » Vous pouvez réécouter leur dialogue sur le site de France Culture. Ce soir, nous nous demandons si les Occidentaux ont vécu dans un monde à part. Le virus apparu en Asie a en effet pris l'Europe et les États-Unis par surprise. Les pays développés, sûrs de leur modèle, n'avaient sans doute pas imaginé être confrontés à une crise d'une telle ampleur. L'Occident, qui croyait peut-être à la fable de la fin de l'histoire, n'en est pas à sa première déconvenue. Les attentats terroristes, le changement climatique et désormais donc le coronavirus le propulsent dans une autre forme de mondialisation. Le modèle universaliste et libéral qu'il promeut en sort-il renforcé ou fragilisé? Les Occidentaux ont-ils vécu dans un monde à part? Et bien pour tenter de répondre à cette question, nous vous proposons ce soir un plateau véritablement mondial puisque nous allons aller en France, au Royaume-Uni et en Afrique du Sud, l'Afrique du Sud, où se trouve notre premier invité, Achille Mbembe. Bonsoir.
Bonsoir.
Achille Mbembe, vous êtes professeur d'histoire et de sciences politiques à l'université de Witwatersrand. C'est à Johannesburg, en Afrique du Sud donc. Vous êtes un des théoriciens, si ce n'est le théoricien du post-colonialisme. On vous doit notamment, je vais citer votre dernier ouvrage, c'était à la découverte cette année, Brutalisme. Pour discuter avec vous, une essayiste qui, elle, se trouve à Londres, au Royaume-Uni. Il s'agit de Laetitia Stroche-Bonnard. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes à Londres, mais vous êtes responsable de la revue Phébé pour le magazine Le Point, qui lui est édité en France. Spécialiste de l'histoire du libéralisme, vous avez publié chez Fayard en 2018 « Les hommes sont-ils obsolètes ?» Les hommes avec un H minuscule et pas un H majuscule. Et puis notre troisième invité, lui, est à Lyon. Il s'agit de Romain Bertrand. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes historien, directeur de recherche au CERI, le centre de recherche international qui dépend de Sciences Po, spécialiste, vous, de l'histoire connectée. Tous ces concepts-là, hein, le post-colonialisme, le libéralisme, l'histoire connectée, c'est peut-être voilà, des notions sur lesquelles on aura l'occasion de revenir d'ici 19h. Je signale, c'est pas votre dernier ouvrage, mais c'est un ouvrage évidemment important par rapport à la discussion de ce soir, L'histoire à parts égales, que vous aviez publié au Seuil, c'était en 2011. Et c'est à vous que je vais poser la première question, Romain Bertrand, mais elle sera aussi pour nos deux autres invités. Cette pandémie de coronavirus que nous sommes encore en train de vivre, qui est un événement mondial, est-ce que c'est un événement que l'on racontera, à votre avis, de la même manière, quel que soit l'endroit de la planète où il a été vécu? En gros, est-ce qu'on fera une histoire à parts égales du coronavirus, Romain Bertrand?
Alors pour faire une histoire véritablement à parts égales du coronavirus, il faudrait donner la parole de manière parfaitement symétrique à l'ensemble des acteurs. Et il se trouve que l'un des acteurs principaux de cette pandémie, eh bien c'est le virus lui-même, c'est un non-humain. Ce qui est certain en tout cas, c'est que lorsque probablement on tissera les récits au pluriel de cet événement, eh bien, l'on constatera qu'il s'inscrit dans le sillage de l'ensemble de ces événements qui ont montré, démontré, si du moins on avait eu tendance à l'oublier, eh bien, à quel degré d'interconnexion le monde aujourd'hui en est arrivé. Et on le lira à l'aune aussi, eh bien, de ces circulations au long cours d'un bout à l'autre de l'Asie, de ce que l'on appelle l'Eurasie, qui ont une très ancienne, une très longue histoire.
En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est un événement qui a été vécu avec une forte intensité sur de très nombreux points du globe. Il y a le politologue bulgare Ivan Krastev qui, dans une interview au Monde il y a quelques jours de cela, disait ceci, prise dans sa totalité, la société mondiale a vécu une expérience sans précédent. Pendant 2 mois, nous avons tous habité un monde commun. Nous avons fait l'expérience d'un cosmopolitisme casanier. Nous habitions le monde tout en restant à la maison. Que pensez-vous, Achille Bembe, de cette idée d'un cosmopolitisme casanier que nous aurions vécu du fait de cette pandémie ?
C'est une idée intéressante. Je dirais que, tout d'abord, que dans l'histoire de l'humanité, l'Occident, puisque c'est le thème central de notre conversation, aura été, à mon avis, une force constante, mais souvent aveugle. Au demeurant, j'imagine que c'est le propre de toute force, cette part d'aveuglement, ou si vous voulez, d'auto-aveuglement. L'Occident aura pensé qu'il suffisait de conquérir la force de l'eau, du vent, des métaux, des combustibles ou des matières radioactives pour assurer, je dirais pour l'éternité, sa domination universelle. On se rend très bien compte avec cette pandémie que, à côté des grandes conquêtes scientifiques et technologiques et des guerres, les fléaux, les désastres et les calamités ont souvent été les plus importants facteurs de basculement des mondes. Alors, je ne sais pas si le concept de cosmopolitisme casanier renvoie précisément à cette dimension de basculement. Pour moi, c'est ce basculement des mondes qui me frappe. Et je pense qu'il faut reconnaître qu'une part fondamentale de l'histoire humaine échappe à la volonté humaine. Et ceci ne veut pas pour autant dire que le gouvernement du globe ou la gestion du globe se résumerait à un jeu de hasard. Mais la Covid-19 nous aura obligés à accepter qu'il y a non seulement une part aléatoire de l'histoire, mais aussi une part d'inattendu et d'imprévu que la conscience contemporaine a beaucoup de mal à admettre.
Mais quand vous dites Achille Bembe que on assiste donc à la faveur de cette pandémie à un basculement du monde, ce basculement il se fait au détriment de qui ? Est-ce qu'il se fait au détriment des Occidentaux et il se fait au profit de qui ?
Ça reste à voir. Il y aura des perdants et des gagnants aussi bien en Occident, si un tel terme a quelque sens que ce soit aujourd'hui, aussi bien là-bas que ici. Mais ce qui me frappe, moi, c'est quand même que le monde du computationnel, dans lequel nous sommes de plein pied, dans lequel nous avons d'ores et déjà basculé, c'est quand même un monde qui est dominé par de gigantesques appareils de calcul. C'est d'ores et déjà un monde mobile, dans le sens le plus polymorphe du terme, le plus viral du terme, et je dirais aussi le plus cinématique du terme. L'enjeu, le défi auquel nous faisons face, tous, en Occident comme ailleurs, c'est d'apprendre à faire de la place à l'ensemble du vivant. L'Occident n'est pas placé hors du monde, à l'écart du monde. L'Occident, comme le reste, nous sommes confrontés au défi de faire place à l'ensemble du vivant. Or, nous n'avons pas suffisamment appris à le faire.
Laetitia Strauss-Bonnard, est-ce que vous diriez que cette pandémie a forcé, peut-être, alors l'Occident, c'est vrai que cette notion, évidemment, elle prête à débat, mais en tout cas, disons-le, le monde occidental et le modèle qu'il porte l'a poussé peut-être à se recentrer et à se repenser dans une globalité plutôt que de se penser à l'écart des grandes catastrophes, celle-ci évidemment en étant une extrêmement importante.
Alors oui, c'est possible, je souscris à tout ce qui vient d'être dit. J'insisterai aussi sur le fait que, comme vous le soulignez, il n'y a pas un Occident. Je trouve que c'est un petit peu difficile d'essentialiser une notion qui, en fait, recouvre des réalités très diverses. Et moi, ce qui m'a frappée, puisqu'au début, vous nous demandiez comment nous pensions que l'histoire serait racontée, ce qui m'a frappée, c'est plutôt la façon dont les pays occidentaux eux-mêmes ont répondu. Et ces façons étaient très diverses. La réponse en Europe n'a pas été la même qu'aux États-Unis. Au sein de l'Europe, vous avez aussi de grandes différences. Et les populations elles-mêmes n'ont pas du tout le même rapport aussi aux libertés publiques, aux libertés individuelles, au confinement. Donc moi, c'est aussi cette diversité qui me frappe et qu'on a peut-être tendance à oublier quand on parle de l'Occident, parce qu'on nous met un peu tous dans le même sac d'une certaine façon. Alors après, vous posez la question de savoir si l'Occident est forcé de se remettre en cause ou de s'interroger. Je pense évidemment oui. Et d'ailleurs, c'est peut-être une des grandes qualités de l'Occident de s'être toujours beaucoup remis en question et de se battre toujours un petit peu contre lui-même, de produire ses propres critiques et ses propres réformes. Et en effet, nous sortons d'un temps où nous pensions peut-être que nous étions à l'abri d'un certain nombre de tragédies. C'est-à-dire que nous n'avions pas vécu d'épidémie de cette ampleur depuis longtemps. Les conflits sur notre sol sont beaucoup moins nombreux et quasi inexistants. Alors il y a le terrorisme, évidemment, qui nous rappelle depuis quelques années que le tragique n'a pas disparu. Il y a le réchauffement climatique. Mais d'une certaine façon, nous sortons quand même de plusieurs décennies, que certains chercheurs appellent d'ailleurs la longue paix, c'est-à-dire toute cette période qui suit la Deuxième Guerre mondiale, où l'Occident est devenu très prospère et beaucoup plus pacifique qu'il ne l'était auparavant. Donc peut-être avons-nous péché par une forme de naïveté. Ensuite, je distinguerai quand même, parce que on ne peut pas mettre non plus tous les Occidentaux dans le même sac. Et je pense que ça fait quelques années déjà qu'il y a des discussions sur ce sujet. Le livre de Samuel Huntington, d'ailleurs, qui s'appelle le choc des civilisations, est sorti en 1993. Donc déjà à cette époque, quoi qu'on pense de sa thèse, on se posait déjà la question de l'universalisme occidental et de la propagation des idées libérales de l'Occident. Donc on est un petit peu dans cet entre-deux. On sort de cette période...
Vous parlez, Laetitia Strauss-Bonnard, de naïveté. Est-ce qu'il ne faudrait pas davantage parler d'arrogance?
Peut-être ne faut-il pas être trop difficile avec nous-mêmes, parce que on a quand même de quoi être fier et content de nous. C'est-à-dire que l'Occident a quand même produit, n'a pas produit que du désastre. Il a aussi produit quand même des choses assez admirables. Les systèmes politiques occidentaux, malgré leurs défauts, sont quand même relativement stables et ils permettent de concilier les libertés des uns et des autres avec quand même un sens du bien commun. Notre système économique, le libéralisme, le capitalisme, quelle que soit la façon dont on l'appelle, me semble un très bon système, même si ça n'est pas forcément le meilleur. Mais pour l'instant, on n'a pas encore trouvé vraiment mieux. Donc voilà, je pense que l'arrogance... S'il y a arrogance, à mon avis, il faut être plus précis, il faut détailler, c'est-à-dire où, qui, comment. En effet, par exemple, un exemple, si on prend les interventions militaires à l'étranger, celles des États-Unis au Moyen-Orient, par exemple, oui, là, il y a une forme d'arrogance, c'est évident. Mais pour le reste, les choses qui sont pacifiques et qui sont, disons, mises à disposition de tout le monde et que chacun est libre d'accepter ou non, je pense que là, l'Occident ne fait pas preuve d'arrogance.
Alors on va voir si nos deux autres invités partagent votre point de vue. Romain Bertrand, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Laetitia Strauss-Bonnard et avec ce diagnostic de ce qu'a apporté, de ce qu'apporte encore le monde occidental ?
Alors je suis en tout cas d'accord avec deux choses, avec cette idée que la notion même d'Occident taille probablement trop large pour pouvoir spécifier des ensembles de sociétés disposant de réponses ou de patrimoine commun. Je suis également d'accord avec Achille Mbembe sur cette idée que finalement cette crise de la Covid-19, de la pandémie, c'est une remise en cause de notre notion même du monde. C'est-à-dire qu'auparavant, finalement, lorsqu'on parlait du monde, on parlait de la planète habitée, structurée, texturée par l'homme. On parlait de l'ensemble des sociétés humaines. Eh bien, cette pandémie nous a rappelé que nous n'habitons pas seuls la planète et que faire une place au vivant, c'est précisément s'efforcer de coexister ou de cohabiter avec lui. Et c'est bien parce que nous n'avons pas trouvé les moyens de cohabiter pacifiquement avec lui, eh bien que nous nous retrouvons aujourd'hui devant le désastre d'une pandémie. Et puis enfin, pour ce qui concerne les apports de l'Occident, positifs, négatifs, je suis pas très à l'aise avec un type d'histoire qui tend à faire des inventaires à double colonne et où il s'agirait de mettre d'un côté le très bon d'une société et puis de l'autre côté, ma foi, ce qu'elle aurait apporté en termes de dévastation. Je crois que ce qui est certain, c'est que, pour parler un petit peu plus petit que l'Occident, l'Europe, un certain nombre de sociétés européennes ont vécu assez confortablement dans une certaine idée d'elle-même qui se défait progressivement et qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire et pour essayer tout simplement de regarder un certain nombre de choses en face. Donc je crois que la façon dont nous nous sommes racontés sous forme de légende dorée notre propre histoire comme celle des pionniers de l'entrée dans la modernité, des inventeurs de tout ce qui aujourd'hui serait le capital philosophique universel, eh bien cette histoire-là, oui, il va falloir aller y regarder d'un peu plus près et probablement un certain nombre de légendes n'en sortiront pas indemnes.
Dans quoi est-ce que vous diriez, Romain Bertrand, que cette crise du coronavirus égratigne cette légende dorée que se sont racontées les Européens?
Cette légende dorée, elle reposait tout d'abord essentiellement sur l'idée que l'Europe était le centre du monde, ou tout du moins le moteur de l'histoire universelle, et que le reste du monde, finalement, n'avait qu'à réagir par rapport à un certain nombre de mouvements de l'Europe, qu'on a dépeints comme précisément des avancées au bénéfice universel de l'humanité. Bien, la situation internationale actuelle nous rappelle ou nous montre tout simplement que les choses ne fonctionnent pas aussi simplement, on ne peut plus fonctionner dans des modèles européocentristes, diffusionnistes. C'est un monde de facto multipolaire et un certain nombre d'apports sont à mettre au crédit de tous les ensembles de sociétés. Voilà, et je crois que d'une certaine manière, l'ampleur du péril commun auquel est confrontée l'espèce humaine aujourd'hui. Il faut bien voir que la question du choc pandémique est liée très directement à la question du réchauffement et du dérèglement climatique. Eh bien, l'ampleur de cette menace nous oblige aussi à penser à nouveau à hauteur ou à échelle de l'espèce dans son ensemble, et donc peut-être à dépasser ces modèles qui essayaient de répartir les blâmes et les lauriers entre tel ou tel ensemble de sociétés.
Vous êtes d'accord avec ça, Achille Mbembe?
Oui, entièrement. Je suis entièrement d'accord avec ce que dit Romain. Il l'a dit mieux que je l'aurais pu. Mais il me semble quand même que il y a longtemps, l'Occident a, puisque vous nous avez imposé ce terme.
Vous avez le droit d'en faire ce que vous voulez après. Hein.
Ok. Parce que moi je vis à Johannesburg, mais j'ai une partie de moi qui est occidentale. J'appartiens quelque part à l'Occident tout en appartenant à d'autres mondes. Mais puisque le terme il est là, je crois qu'il y a longtemps quand même que l'Occident a choisi d'imprimer un cours dionysiaque à son histoire et a choisi d'y entraîner le reste du monde. Du coup, je crois qu'il peine à comprendre ce que c'est que de faire place à tous, à un moment justement où le centre de gravité du monde est en train de se déplacer ailleurs. La Chine s'y est mise elle aussi, et pour le coup, il me semble que le monde est entraîné dans un vaste processus, je dirais, de dilacération dont nul ne peut prédire l'ensemble des conséquences. Nous assistons partout au déverrouillage des passions les plus obscures, à la réhabilitation de la part bestiale et virale de l'humain, et du coup ce qui est en train de nous arriver ou de faire irruption dans nos existences est comme le suggérait Romain, la conséquence quand même du terrible travail effectué depuis quelques siècles pour détacher l'humain de toute connexion signifiante avec l'étendue du vivant. Du coup, l'histoire est en train de se réduire sous nos yeux à l'irruption du hasard dans l'existence, à ce qui a l'air d'un jeu de force naturel, à la réduction de l'humain à sa part pathogène. Donc tout cela, moi, ça me frappe et je pense que le monde de demain ne peut pas exactement être le monde d'avant la Covid-19.
Laetitia Strauss-Bonnard, cette remise en cause, dont on ne sait pas très bien si elle sera durable ou pas, mais peut-être à la fois de la centralité et de la force d'un modèle qui est le modèle, alors abandonnons peut-être un instant cette notion d'occidental, mais en tout cas au moins un modèle européen qui est un modèle basé sur une certaine idée, disons, de l'universalisme, des droits de l'homme, du libéralisme. Je pense surtout au libéralisme politique, mais aussi le libéralisme économique. Est-ce que on n'assiste pas aussi à la confrontation avec d'autres modèles qui paraissent peut-être aujourd'hui beaucoup plus compétitifs qu'on ne l'imaginait quand on voit la façon dont les pays asiatiques ont géré cette crise, pas plus mal que les Européens, peut-être même plutôt mieux, avec des modèles assez différents, parfois dans des régimes qu'on qualifie d'autoritaires ou de semi-autoritaires. Est-ce que ça ne conduit pas, là aussi, à une nécessaire remise en cause de ce que l'on pensait, nous, des vertus de notre universalisme ?
Oui, bien sûr, mais ça dépend de quoi on parle, parce que encore une fois, en Asie, vous avez plusieurs pays, plusieurs modèles. Donc, le modèle de la Chine n'est pas le même que celui de Taïwan, par exemple. Et vous avez là deux pays qui ont quand même réagi assez bien à la pandémie, mais d'une façon complètement différente. Ou encore la Corée du Sud, qui a très très bien réagi elle aussi. Donc, en effet,
ce sont peut-être des sociétés qui sont moins tournées vers l'individu et l'individualisme que les nôtres.
Il y a peut-être un sens de la norme sociale qui est beaucoup plus fort, en effet. Et la norme, dans ce cas-là, n'a pas à être, disons, introduite ou rappelée par l'État, mais elle est déjà, d'une certaine façon, soutenue par les individus, même avant que l'État s'en mêle. Donc c'est vrai que il y a peut-être des formes de coopération sociale dans ces pays qui sont très différentes des nôtres, que nous connaissons mal, en fait. En tout cas, moi, personnellement, je ne suis pas du tout expert du sujet. Mais en tout cas, de loin, si on parle de système politique, on peut avoir l'impression qu'un système dictatorial, disons très autoritaire, plutôt comme celui de la Chine, fonctionne mieux face à une épidémie. Et c'est très dérangeant pour nous, parce que la façon dont ils ont confiné leur population a été très violente, bien plus violente que la nôtre. Donc oui, je pense que c'est quelque chose qui est dérangeant pour nous. Cependant, la question qu'il faut se poser, c'est celle du moyen-long terme. Il n'est pas sûr que sur le moyen-long terme, la Chine, par exemple, soit la mieux placée pour gérer cette épidémie pendant longtemps, et aussi peut-être pour trouver un vaccin. Il est possible, probable même, que le vaccin soit trouvé aux États-Unis. Il y a quand même de grandes chances qu'avec les moyens qu'ils mettent dedans, ce soit là-bas que ça se passe. Et nous avons, nous, ces avantages-là, je pense. Donc il faut pas voir seulement l'instant présent, il faut voir le long terme. Après, vous parliez du libéralisme à l'instant. Je pense qu'il y a quand même une forme de libéralisme qui a été discréditée par cette crise, et pas seulement par cette crise. C'est l'idée d'un libéralisme complètement universaliste. Cette idée que plus les systèmes politiques et plus les pays se ressemblent, mieux c'est. J'ai l'impression que c'est une idée qui était même encore plus forte dans les années 90, après la chute de l'URSS, au moment où Francis Fukuyama a écrit son livre « La fin de l'histoire ». Cette idée que on pouvait, finalement, il y avait une façon de bien organiser les sociétés, et c'était celle-là. Et je pense que c'est un peu dommage, parce que ça discrédite aujourd'hui un petit peu l'entièreté de la pensée libérale, et ça l'a déjà discrédité avant, parce que dans le libéralisme, vous n'avez pas seulement ça. Il y a un libéralisme qui est très minoritaire, mais qui considère qu'on peut tolérer différentes façons de vivre, et que le but n'est pas d'uniformiser tout le monde. Sauf que cette voix-là, ce libéralisme-là, on l'entend plus, on l'a très peu entendu, et je pense qu'il sera discrédité avec l'autre, d'une certaine façon.
Donc ça le discrédite et ça le fragilise également, Laetitia Strauss-Bonnard.
Oui, bien entendu. Parce que si, encore une fois, on s'en tient à la définition très simpliste qu'on en a eu dans les années 90, d'un système politique, économique qui n'a qu'une seule, disons, qui fonctionne d'une certaine façon et pas d'une autre, eh bien, oui, puisque ce système, en fait, n'est pas forcément adapté à tous les pays. C'est quand même assez absurde de se dire que des pays et des cultures qui sont millénaires vont tous converger vers une forme d'organisation politique et économique. Après, il peut y avoir évidemment des buts communs ou des principes communs, et c'est pour ça aussi que les droits de l'homme sont reconnus par beaucoup de pays. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais je pense qu'il vaut mieux penser la tolérance mutuelle entre des systèmes et des pays différents que l'uniformisation du monde. Et cette crise, d'une certaine façon, c'est une sorte de révélateur de ça, que l'uniformisation du monde n'est ni possible ni souhaitable.
Romain Bertrand.
Oui, alors je crois qu'il faut quand même faire attention au danger qui consisterait à réinstaurer un grand partage entre l'Europe qui serait à la fois le berceau et le temple du libéralisme et puis des mondes extra-européens qui seraient par nature destinés ou appelés vers des destinées plus autoritaires. Il faut rappeler qu'historiquement, la pensée libérale, aussi bien en termes politiques que philosophiques, la notion d'une individualité politique, l'organisation des systèmes sociaux autour d'un contrat entre eux, des gouvernants et des gouvernés, eh bien tout cela n'est pas apporté au bénéfice exclusif de l'Europe, laquelle d'ailleurs est une notion assez récente dans l'histoire. Et avant le XVIe siècle, eh bien l'Europe est ouverte à bien d'autres mondes. Il a existé une pensée libérale, il existe toujours une pensée libérale, aussi bien dans des pays du Proche-Orient que dans des pays asiatiques. Et justement, il faut toujours se rappeler qu'il existe 1000 variantes ou 1000 versions de libéralisme, si par là on entend précisément ce que nous tendons à nous réserver comme héritage particulier, c'est-à-dire la définition de l'individu et du politique contemporain.
À ceci près, Romain Bertrand, que peut-être que ces sociétés-là, dont vous dites qu'il y existe une pensée libérale, ça n'est pas pour autant ce qui définit ces sociétés, alors que par exemple les sociétés européennes peuvent être définies comme des sociétés libérales, et pas seulement des sociétés où il existe cette pensée-là.
Oui, mais alors vous voyez, le propre ou le privilège de l'historien, c'est tout de même de pouvoir naviguer à sa guise sur le fleuve du temps. Et là, il faut quand même rappeler que l'Europe, dans le siècle écoulé de son histoire, n'a pas toujours connu seulement des épisodes de grande démocratie. Elle a abrité des États autoritaires, elle a abrité des systèmes politiques fascistes, elle est travaillée aujourd'hui encore par des ethno-nationalismes en Europe de l'Est, par exemple, qui ne sont pas, on pourrait dire, la confirmation d'une sorte d'inclination naturelle au libéralisme et à la paix entre les peuples. Donc tout dépend à quelle échelle de temps vous taillez finalement votre regard, le regard que vous portez sur l'Europe et son histoire. Je crois que toutes les sociétés ont contribué à définir des formes du vivre ensemble démocratique. Il en a existé des exemples aussi bien dans les sociétés d'Afrique que du Pacifique que d'Asie. La contribution européenne est une contribution parmi d'autres, mais elle reste fragile. Et 50 ans en arrière encore, eh bien, il y avait en Europe, on pourrait dire, des enclaves de pensée tout sauf libérales.
Achille Bembe.
Une fois de plus, je suis d'accord avec Romain. Moi, ce qui me frappe, en fait, c'est, au risque d'être scandaleux, c'est la convergence des régimes politiques, qu'il s'agisse des vieux régimes dits démocratiques d'Occident ou d'autres, autour de ce que j'appellerais le techno-libertarisme.
Qu'est-ce que c'est ?
Par techno-libertarisme, j'entends un nouveau régime dans lequel des systèmes automatisés récoltent et traitent d'innombrables données relatives à chacun de nos actes, désirs et conduites. Un système où nous sommes entourés d'une multitude de capteurs et de processeurs, des senseurs, des caméras et d'objets connectés sur toutes sortes de surfaces, y compris corporelles. Des systèmes où chaque décision est infléchie de façon algorithmique, où une bonne partie de l'existence, si vous voulez, se vit sur des écrans, et où la plupart de nos gestes font l'objet d'un guidage plus ou moins robotisé. Il s'agit donc, je dirais, d'un nouveau paradigme de gouvernement. J'appellerais ça le gouvernement par la captation en continu des flux de l'existence. Et ceci, on le voit en Chine, on le voit aux États-Unis, on le voit au Japon, on le voit y compris dans des pays comme la Corée du Sud ou l'Afrique du Sud, dans ce cas. Et c'est ce qui me frappe le plus.
C'est ce qui vous frappe et c'est ce qui vous inquiète, Achille Mbembe, c'est-à-dire ce nouveau modèle qui tendrait peut-être à s'universaliser?
Oui, il est en train de, entre guillemets, s'universaliser. Et du coup, ça pose de nouvelles questions à tous, de toutes les façons. Ce qui me frappe également, c'est la généralisation de l'état d'exception. Lorsque vous prenez la centaine ou plus d'États qui composent les Nations Unies aujourd'hui, plus de la moitié de ces États vivent sous un état ou l'autre d'urgence. La normalisation de l'état d'exception, le déplacement du politique sur le terrain de la sécurité, mais cette fois-ci, il s'agit d'une sécurité de nature quasi-biologique, avec l'apparition de nouvelles formes de ségrégation entre les corps d'immunité qu'il faut protéger et d'autres corps, des corps viraux qu'il faut confiner. Moi, c'est ce qui me frappe. Et je crois que ça remet fondamentalement en question la vieille division du monde entre les régimes libéraux dont le centre serait l'Europe et les États-Unis et les autres mondes caractérisé comme dans l'anthropologie ancienne par le despotisme et l'autoritarisme.
Sur la question du corps, alors ça me fait revenir vers vous, Romain Bertrand, puis ensuite je vous redonnerai la parole, Laetitia Strauss-Bonnard, mais vous en souvenez peut-être pas, mais en 2012, après votre histoire à parts égales, vous aviez répondu à une longue interview pour le site Non-Fiction, et vous disiez ceci justement par rapport à la notion de corps. Disiez, alors, des Lumières, on a gardé Descartes en oubliant qu'à la même époque, il y a tout un ensemble de pensées très différentes. Ce qui a été effacé, et mis à distance au XVIIe et XVIIIe siècle, c'est un rapport particulier du savoir au corps, l'idée que le savoir peut s'acquérir par l'épreuve physique. C'est ça l'expérience mystique. Disiez qu'en fait, voilà, finalement aussi, l'histoire européenne s'était développée en oubliant cette dimension mystique du rapport au corps. J'ai trouvé cette citation-là particulièrement intéressante au regard de notre actualité par rapport à ce virus.
Oui, c'est une manière aussi de rappeler que notre propre passé, le passé de l'Europe, est un formidable réservoir d'étrangeté. Et que tout ce que nous tenons aujourd'hui pour évident, ce que nous lisons rétrospectivement comme l'accomplissement d'une destinée ou le cheminement sur un sentier unique, par avance déterminé, eh bien tout cela s'est fait au prix de choix, de bifurcation. Et donc dans notre propre histoire, nous trouvons d'autres formes de rapports, y compris au vivant et à la nature. Et donc nous pensons, ou en tout cas nous pensions jusqu'à présent, que nous n'avions jamais été que ce que nous sommes aujourd'hui et que d'autres rapports au reste des sociétés ou au reste du vivant étaient étrangers à notre patrimoine, à notre tradition, eh bien ça n'est pas vrai. Donc nous avons en fait dans notre passé des forces vives qui peuvent nous aider à recomposer notre place dans le monde et à faire, je trouve que c'est important ce que dit Achille Mbembe, c'est-à-dire nous avons du mal à faire place, voilà. Alors nous avons déjà du mal à faire place à ces mondes que nous connaissons peu, ces sociétés humaines distantes, lointaines, et nous avons évidemment encore plus de mal à faire place au reste du vivant, mais il n'en a pas toujours été ainsi, et à certains moments de notre histoire, au XVIe, au XVIIIe, au XIXe siècle, eh bien il y a eu d'autres manières de se relier aussi bien à d'autres humanités, à des humanités distantes qu'au reste du vivant. Voilà, il faut puiser dans ce réservoir d'étrangeté-là aussi, peut-être pour précisément rebondir.
Il faut dire que c'est sans doute d'autant plus compliqué de faire place à autre chose, Laetitia Strauss-Bonnard, que quand on imagine que certains processus sont de l'ordre de l'inéluctable. Par exemple, il y a le caractère inéluctable du progrès qui a quand même beaucoup conditionné le développement des sociétés occidentales. Je reviens malgré tout à ce qualificatif. Est-ce que cette notion de progrès, par exemple, elle vous semble être remise en cause aujourd'hui, pas seulement par la pandémie, mais par toutes les crises qui existent aujourd'hui, et je pense en particulier au changement climatique.
Alors, je pense qu'il faut faire une distinction entre le progrès avec un petit p et le progrès avec un grand p. Le progrès avec un petit p, auquel on peut associer quand même le progrès technique, parce que c'est souvent comme ça qu'on l'entend, c'est un fait, disons. C'est la façon dont on décrit le processus d'innovation. Donc voilà, dans la technologie, la science, on progresse de découverte en découverte et on fait des progrès. En effet, aujourd'hui, on sait construire des voitures électriques, par exemple. Avant, on construisait des chariots. Donc là, on a fait un progrès. Je pense qu'on peut le noter objectivement parce que ça permet, par exemple, d'aller plus vite, plus de se déplacer mieux, etc. Mais ça, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Et en effet, les sociétés occidentales, pour reprendre ce terme, même si on l'a discuté, ont fondé énormément de leur développement sur le progrès technique, parce que le progrès technique conditionne l'innovation et la croissance, en tout cas dans un système capitaliste. Donc c'est vrai que les Européens et les Américains, mais les Occidentaux, ont beaucoup compté là-dessus. Mais ensuite, le progrès avec un grand P, c'est autre chose. Et je pense que là, on est plutôt dans l'ordre d'une religion. C'est cette idée qu'en effet, l'histoire s'écrit sur une ligne droite, et d'ailleurs une ligne qui monte, et que le monde de demain sera forcément meilleur que le monde d'aujourd'hui, qui est lui-même meilleur que le monde d'hier, et donc que tout ira toujours de mieux en mieux, ce qui est en fait une forme d'utopie et qui peut mener en effet à de grosses erreurs de prédiction. Et ça revient un petit peu à ce qu'on discutait tout à l'heure sur l'espèce d'aveuglement dans lequel nous avons vécu dans les années 90 et ensuite, qui était de penser que c'est bon. On avait atteint cette espèce de palier de prospérité et de paix et que tout ne pourrait qu'aller encore mieux ou en tout cas la situation resterait stable. Mais ça, en effet, c'est très naïf et ça dénote pour moi une forme d'ignorance de l'histoire, tout simplement. Le fait d'oublier finalement que derrière nous il y a des siècles et des siècles de conflits, de batailles, de maladies, de difficultés extrêmes, et que si certes nous avons réussi à surmonter beaucoup de difficultés, notamment de maladies, de circonstances naturelles notamment qui étaient adverses, on ne peut pas tout prévoir. Et demain, il peut y avoir une guerre. Demain, il peut y avoir une autre épidémie. Et ça, je pense que nous l'avons oublié. Et pour moi, je le répète, c'est le signe de connaissances historiques qui laisse à désirer.
Achille Mbembe, vous avez dit à plusieurs reprises que vous étiez d'accord avec ce que venait de dire Romain Bertrand. Est-ce que vous allez en dire autant par rapport à ce que vient de dire Laetitia Strauss-Bonnard?
Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Je crois pas qu'on soit si éloignés les uns des autres que cela. Si de fait la COVID-19, je crois qu'elle est quand même l'expression tout à fait spectaculaire d'une certaine impasse, pas de l'Occident, pas seulement l'Occident, mais une impasse planétaire dans laquelle l'humanité se trouve. Il nous faut revenir à ces concepts d'humanité, d'espèce, ainsi de suite. Alors si effectivement c'est l'expression de cette impasse, alors je crois qu'il ne s'agit ni plus ni moins que de recomposer une terre habitable. Une terre habitable, pourquoi? Parce que une terre habitable offrira à tous la possibilité d'une vie respirable. Je dis tout ça pour indiquer dans quel sens est-ce qu'on pourrait réinterpréter le concept de progrès. Je crois qu'on est un progrès, un nom de sens aujourd'hui que si derrière eux pointe cette possibilité de respiration pour tous. Il s'agit de ressaisir les ressorts de notre monde dans le but de forger de nouvelles terres, de nouvelles archives, des archives du monde, et pas seulement des archives de l'Occident. Si d'ailleurs, il est vrai que les archives de l'Occident sont un condensé des archives du monde. Et donc la question, c'est de savoir si nous serons capables de redécouvrir notre appartenance à la même espèce et notre insécable lien avec l'ensemble du vivant. Je crois que telle est la question à laquelle on est confronté.
Ça veut dire que pour vous, il ne s'agit pas de renoncer à l'universalisme, mais peut-être de repenser cet universalisme à la faveur de ces crises et par rapport à la place que doit ou que devrait occuper l'humain par rapport à l'ensemble du monde vivant. C'est ça, Achille Mbembe ?
Tout à fait, c'est ça. Il nous faut repenser l'universalisme dans ce sens, dans le sens de l'en commun, dans le sens de ce lien insécable entre les humains et le reste du vivant. Et c'est d'ailleurs ce que Romain et moi en particulier, nous n'avons cessé de développer lors de cette conversation. Et donc, le débat n'est pas en universalisme et provincialisme. Le débat porte sur la manière de favoriser l'émergence aujourd'hui et pour demain d'une nouvelle conscience planétaire.
Romain Bertrand et Laetitia Strauss-Bonnard, on est presque à la fin de cette émission. Je vous laisse l'un et l'autre conclure sur cette notion d'une, je ne sais pas comment il faudrait dire, mais réinvention d'un universalisme. Romain Bertrand, et puis on laissera le dernier mot à Laetitia Strauss-Bonnard.
Oui, finalement, il s'agit de se rendre compte qu'à force d'affirmer que nous sommes ceci ou cela, et que nous ne sommes que ceci ou que cela, à force de nous enfermer dans des identités nécessairement étriquées, bien nous avons oublié l'une des leçons les plus importantes de l'histoire, qui est que nous sommes toujours nous-mêmes autres. Voilà. Pas seulement aller vers les autres qui est important, c'est de se rendre compte que nous avons toujours été métissés de rapport à d'autres sociétés, métissés de rapport à d'autres êtres vivants. Nous habitons la même planète, mais certains êtres, y compris malheureusement les virus, peuvent nous habiter. Et je crois qu'il faut puiser dans cette idée que nous sommes nous-mêmes toujours un peu différents et donc un peu plus larges que ce que nous croyons, une ressource pour aller vers une recomposition de notre rapport en tant qu'espèce à un univers, comme dit Achille Mbembe, qui redevienne tout simplement habitable et respirable.
Laetitia Strauss-Bonnard.
Alors oui, je suis d'accord, il faut réinterroger d'une certaine façon notre rapport aux autres et au reste du monde. Je pense aussi qu'il faut réinterroger notre rapport à nous-mêmes, donc à nous les Occidentaux, et peut-être accepter à nouveau le sens du tragique que nous avions un petit peu oublié.
Eh bien, merci pour cette conclusion. Merci à tous les trois. Achille Mbembe, vous étiez en Afrique du Sud, Laetitia Strauss-Bonnard en Angleterre et Romain Bertrand en France, mais à Lyon. Et moi, c'était à Paris, comme toute cette semaine, pour ces rencontres de Pétrarque. D'ailleurs, je précise que notre dernière séance vendredi sera consacrée à la question suivante. L'homme est-il à sa place dans la nature? On sera pas très loin, finalement, de la fin de la discussion d'aujourd'hui. Mais demain, mais vendredi, c'est un autre jour. Demain, faut-il relocaliser la mondialisation? On reviendra des questions assez économiques avec José Bové, Isabelle Méjean et Éric Orsena. Les rencontres de Pétrarque. C'est une émission préparée par Aurélie Marsay, réalisée par Véronique Villa, avec à la prise de son Nasser Moussaoui. Merci à tous les trois.